J'ai mis aussi Aubert, Gustave III ou le bal masqué. Alors, Gustave III, le bal masqué, c'est un opéra complètement tombé en désuétude, qu'on n'entend plus, mais il a inspiré Verdi dans l'opéra Un ballo in maschera. C'est la même histoire, hein, c'est l'histoire de l'assassinat du roi Gustave III de Suède. Et donc, la question, je l'ai mis parce que c'est considéré comme un grand opéra. Et puis, bon, la juive de 1835. Alors, après, on a d'autres grands opéras en français. Berlioz, bien sûr, Benvenuto Cellini, en 1838. Vous voyez, c'est toujours la même période, qui raconte l'histoire de la création du Persée, hein, de la statue de Benvenuto Cellini, d'après l'autobiographie que Benvenuto Cellini a écrite. C'est un opéra qui a été un échec magistral. Il va être rejoué par le Festival Berlioz cette année. Pour ceux qui peuvent aller à la Côte-Saint-André, c'est intéressant parce que c'est un opéra qui est très, très donné très rarement, ne serait-ce que parce que le rôle de Cellini est horriblement difficile pour le ténor. Et puis alors, je me suis amusé, j'ai mis 4 fois les Troyens. Alors pourquoi j'ai mis 4 fois les Troyens? Ben, tout simplement parce que les Troyens, ce sont les formes du grand opéra. C'est un opéra énorme, hein, 5 actes, chaque a 2 parties, une partie en 2 actes et une partie en 3 actes, qui chacune pourrait être un opéra. Donc, ce que je veux dire, ça a été joué d'abord de manière tronquée en 1868 à Paris à la Création. Ensuite, à Karlsruhe, on a fait la version en 2 jours, en 1890. On a fait donc les Troyens de Carthage et puis, la prise de Troie en 2 jours. La première intégrale en une soirée a été donnée en 1957 à Londres. Et puis, last but not least, à Paris, en 1990. La fin du temps, quand même. Hein. 130 ans après la création, à Paris, à l'Opéra Bastille, on a le premier opéra qui a été représenté à l'Opéra Bastille dans une mise en scène, ça a été l'intégrale des Troyens, qu'on a représenté tantôt en 2 jours, tantôt en intégrale. L'intégrale, c'est 5 heures à peu près. Donc, vous voyez, c'est un opéra qui n'a pas eu, qui a eu un destin difficile, mais c'est exactement l'histoire de... C'est une histoire symbolique des difficultés du grand opéra. Verdi a écrit 3 grands opéras à la française. Le premier, c'est Les Vêpres siciliennes, en 1855, pour l'Exposition universelle. L'Opéra de Paris lui commande un grand opéra qui puisse mettre en scène des Français. Que fait Verdi ? Il met en scène des Français qui vont coloniser la Sicile et qui se font massacrer. Alors vous imaginez le succès que ça a pu avoir à Paris. Donc, Les Vêpres siciliennes n'a pas eu de succès à Paris, et puis c'est une histoire qui n'est pas à notre gloire, hein, puisque on massacre tous les héros. Les héros sont massacrés par les Siciliens en colère, et les Français sont vaincus, ce qu'on n'aime pas trop. Donc, c'est pas bon, mais enfin, c'est pas grave. Le directeur de l'opéra, qui avait changé entre les deux, en commande à Verdi une version française du Trouvère. Trovatore. Alors, Les Vêpres siciliennes créées en français, Verdi s'est empressé de le faire traduire en italien, et pratiquement sa carrière, c'est la carrière de l'opéra I Vespri Siciliani en italien, et on représente maintenant de manière rarissime la version originale. On l'a vu à Londres il y a quelques années. Bon, c'est vrai que le livret de Scribe n'est pas une réussite, hein, mais c'est, je crois qu'on l'a représenté dans ces dernières années 2 ou 3 fois. Enfin, c'est rarissime la version originale des Vêpres siciliennes. Le Trouvère, alors c'est l'inverse, c'est un triomphe dans la version italienne, et donc on voudrait le présenter à Paris en version française. Et ce qu'on ne sait pas toujours, et notamment à l'Opéra de Paris, on a l'honneur de l'ignorer, c'est qu'il existe une version en français du couvert qui n'est pas la traduction intégrale de la version italienne, mais qui est une version musicalement légèrement différente, avec une fin différente, avec un ballet, etc. Le Trouvert est représenté en 1857. Moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois, en 1992, à Parme. Alors, il y a des cadences différentes, des variations différentes, et une fin qui est très différente, là, musicalement. Et puis le dernier, alors bien après, on considère que c'est après la mode du grand opéra, en 1867, Don Carlos. Don Carlos, qui là est un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Le livret de Camille Dulocle est magnifique. Et la musique, évidemment, est splendide. Et je considère, mais je ne suis pas le seul, que la version française est supérieure à la version italienne. Pourtant, c'est la version italienne qu'on joue pratiquement partout, même à Paris. Hein. Là, c'est rare de jouer la version française. La dernière fois qu'on l'a joué, la version française à Paris, c'était au Châtelet, pas à l'Opéra, en 1995, je crois. Le problème de Don Carlos, c'est un autre problème. C'est un problème d'édition à peu près inextricable, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelle version jouer. Et que c'est une version à tiroir où on peut prendre un truc, en rejeter un autre, on ne sait jamais trop, puisque Verdi a coupé, la veille de la première, il a encore coupé à peu près une demi-heure de musique. Donc c'est très difficile de savoir s'il avait envie de la couper, s'il a coupé parce que le directeur de l'opéra lui disait que c'était trop long, etc. Alors, évidemment, il a refait des versions. Hein. La dernière version date de 1887. Hein, vous voyez, 20 ans après, il écrit encore des versions. Donc la question de Don Carlos est une question ouverte. Mais on a entendu une fois le Don Carlos complet à Turin, en 1991 à peu près. Mais c'est vraiment typique du grand opéra, puisque c'est un opéra historique qui se passe en Espagne. C'est l'histoire de Don Carlos, l'infant fils de Philippe II, et qui appuyé sur le drame de Schiller, et c'est un des grands. Alors, ce sont les formes du grand opéra. Est-ce que c'est un grand opéra? Oui, il y a des caractères du grand opéra qu'on retrouvera plus après. Ça peut se discuter. Alors, j'ai mis Faust. En 1859, le Faust de Gounod, bien qu'il n'ait pas été créé à l'Opéra de Paris, et puis Wagner, dans la version de Paris, Tannhäuser, le tournoi des chanteurs, j'ai mis le titre en français, Tannhäuser et le tournoi des chanteurs à la Wartburg, en 1861, parce que l'Opéra de Paris a exigé que Wagner rentre dans les formes du grand opéra. C'est pas absurde de penser, hein. Wagner est quelqu'un qui connaît bien l'opéra de l'époque, et on va en parler tout à l'heure au collège. Voilà, donc ça c'est la grande tradition, puis alors il y a aussi les dérivés qui sont pas en français. Donc Rienzi, à Dresde, à Rienzi, je vous ai dit, hein, le meilleur opéra de Meyerbeer, qui est un opéra qui dure 5h30, on peut aimer, moi y a des moments où j'aime pas trop, enfin. Et puis Tannhäuser à Dresde, qui est aussi très inspiré des formes du grand opéra, qui reste encore très tributaire des formes de monologue, air, etc., comme on le verra. En fait, Wagner bascule, après Lohengrin, bascule dans un autre genre, donc après 1850. Je mets aussi Umbal und Maschera de Verdi. Pourquoi? Alors, Umbal und Maschera, c'est un opéra horrible, horriblement difficile à réaliser, horrible pour les chanteurs, très difficile aussi scéniquement à produire. C'est un opéra dans lequel on voit des catastrophes. Je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai vu une représentation à la Scala de Milan en 1986 ou 87, avec une distribution très somptueuse. Il y avait donc Leonucci, Luciano Pavarotti, donc a priori ça devait passer, un très grand chef d'orchestre qui s'appelait John Andrea Cavazzini, qui est mort maintenant, bien sûr, il avait déjà à l'époque 85 ans ou à peu près, donc... Et puis une chanteuse impossible, je ne sais pas où ils l'ont trouvée, elle a chanté une seule fois et plus jamais après, Maria Parazzini. Tous les spectateurs retiennent son nom, puisque le trio du deuxième acte, qui est horrible, musicalement horrible à faire, on aurait dit avec tous les trois, elle a réussi à faire en sorte que tous les trois chantaient faux, que c'était, on avait l'impression d'un troupeau de chèvres. La salle, c'était, mais ça a été une catastrophe pour tout le monde. Donc, le bal masqué, c'est vraiment l'opéra impossible de Verdi. Et c'est rare de trouver une totale réussite. Très difficile à chanter, y compris pour le ténor. Donc, on a la difficulté du chant, on a les catégories du grand opéra, parce qu'on a des voix très différentes, on a des voix très variées. Par exemple, le ténor commence comme un ténor plutôt lyrique et plutôt léger, et termine comme plutôt un fort ténor. Hein, donc, il faut avoir l'étendue, mais il faut avoir aussi un timbre qui s'adapte à deux styles radicalement différents. C'est très tendu pour la soprano. Et puis, vous avez aussi des personnages qu'on ne va pas retrouver dans la Juive, mais qu'on retrouve dans la plupart des grands opéras, par exemple, le travesti. Dans le grand opéra, il y a pratiquement toujours un travesti. Dans les Huguenots, c'est le page urbain. Ici, c'est le page Oscar. Ailleurs, dans Rienzi, c'est Adriano, l'amoureux, etc. Vous avez, dans la plupart du temps, du travesti, parce que comme ça, vous avez toute la panoplie des voix. Et comme à l'époque, on n'utilise plus les castrats, c'est une spécialité du 18e, mais pas du 19e, ça ne veut pas dire qu'ils aient disparu. Il y en a toujours au Vatican. Mais, puisque le dernier castrat au Vatican, c'est 1911, hein, mais on n'a pas les castrats, mais on a les travestis, c'est vraiment une survivance hein, qu'on a dans la plupart des grands opéras. Puis le dernier, alors génie, peut-être que des grands stylistes, des grands historiens de la musique seraient horrifiés de voir associé au grand opéra la Gioconda de Ponchielli, mais c'est un grand opéra. 1876, hein, alors Ponchielli est considéré musicalement comme un prédécesseur de Puccini, c'est-à-dire beaucoup plus post-romantique que lié à la période précédente, mais enfin, la forme de l'opéra, les voix que cela demande, l'histoire, les chœurs, le ballet, hein, vous connaissez le ballet des heures, hein, qui est mondialement connu, tout ça donne qu'il y a des... montre qu'il y a des survivances de formes qui vont rester très très fortes.